France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous. Comment lire aujourd'hui les convulsions du monde quand l'ordre multilatéral dont nous étions les commanditaires et les bénéficiaires se défait et que sa recomposition, à partir d'autres rapports de force, nous contraint, nous autres Européens, à sortir de notre torpeur ? Deux guerres qui se prolongent sans vainqueur direct, une accélération des crises qui s'interpénètrent et se déportent sur d'autres théâtres, des enjeux stratégiques en conflit avec les intérêts économiques, la confrontation technologique et militaire qui durcit entre les États-Unis et la Chine, les transitions écologiques et numériques, à l'heure où les réseaux sociaux alimentent le café du commerce géopolitique et la désinformation mondialisée, j'ai la chance, ce matin, d'accueillir deux des meilleurs déchiffreurs de la complexité contemporaine. Ghassan Salameh a mené avec éclat une triple carrière politique, académique et diplomatique. Et Ghassan, vous venez de publier un gros ouvrage passionnant sur l'évolution des rapports internationaux depuis le tournant des années 90. Un ouvrage qui s'intitule « La tentation de Mars chez Fayard ». Thomas Gomard, historien, directeur de l'Institut français des relations internationales, habitué de France Culture et de cette émission, pas assez à mon goût. Thomas, vous analysez l'accélération de l'histoire et les nouveaux nœuds géostratégiques. Votre livre vient de paraître chez Talendier. Une première observation que je soumets à votre sagacité, à tous les deux. Xi Jinping, le président chinois, en visite officielle à Paris, lundi et mardi prochain, et ce, à la veille des célébrations de la victoire alliée du 8 mai 45. Est-ce que c'est finalement le raccourci, le symbole de voir ainsi un nouveau maître du monde face à la recomposition de l'ancien Ghassan Salameh ?
Écoutez, c'est un acteur aujourd'hui incontournable du jeu international. La Chine a profité de 40 ans de mondialisation d'une manière brillante, en ce sens que pratiquement toute la population chinoise a été transportée au-dessus du seuil de pauvreté, ce qui n'est pas anodin. Maintenant, il est sûr que depuis d'une douzaine d'années que le président Xi est à la tête de la Chine, il y a eu une espèce de cristallisation du courant qui n'était pas si clair après la grande transformation de Deng Xiaoping. Avec lui, on a affaire à un discours nationaliste plus ferme, à un budget militaire plus lourd, à une force navale beaucoup plus fournie, à une espèce de présence idéologique sur la scène internationale qui va jusqu'à inviter les deux principales factions palestiniennes, Fatah et le Hamas, hier, à venir à Pékin se réconcilier. Donc il y a un activisme diplomatique qui va de pair avec cette affirmation de la présence de la Chine sur la scène internationale.
Et donc cela bouscule, Ghassan Salameh, l'ordre quasi protocolaire, encore une fois, des puissances qui seront représentées pour les célébrations de la victoire.
Oui, 8 mai. Oui, mais il faut apprendre aussi à comprendre la Chine. C'est-à-dire, il n'est pas sûr que la Chine voit le monde, voit son ascension dans le système international, voit son influence sur ce système de la même manière que l'Amérique ou que d'autres puissances ou que les puissances coloniales du 19e. La Chine agit, regardez ce qui s'est passé à Hong Kong, regardez son action lente mais déterminée en mer de Chine. La Chine agit par absorption plutôt que par conquête. Et la Chine a découvert qu'elle n'avait pas d'ennemis tellement évidents au-delà du désert, pour lequel elle a construit à deux reprises une grande muraille de Chine, mais que son espace vital est devenu un espace particulièrement maritime, comme l'écrit d'ailleurs M. Gomard dans son livre.
Thomas Gomard, je reviens à cette image. Donc, Xi Jinping à Paris, dans les Pyrénées, ce qui est un geste amical, quasi familial de la part du président français, et le 8 mai.
Ce qui me frappe dans la commémoration du 8 mai, c'est que ça rappelle peut-être le rôle tout à fait particulier, non pas de la Chine, mais des États-Unis. C'est-à-dire que nous allons célébrer la victoire du 8 mai, mais également le 80e anniversaire du débarquement de Normandie. Et en juin 1944, vous avez un débarquement très important en Europe, mais vous avez aussi des opérations très importantes dans le Pacifique, conduites par les États-Unis. Pourquoi je fais ce rappel? C'est que ça montre qu'aujourd'hui, enfin, que est née, en fait, avec la Deuxième Guerre mondiale, la seule vraie puissance globale que sont les États-Unis. Et le rapprochement que vous faites est intéressant parce que la question fondamentale aujourd'hui qu'on se pose, c'est est-ce que la Chine de Xi Jinping a le potentiel pour devenir une puissance globale comparable à celle des États-Unis? Elle le désire très certainement, peut-être avec les modalités qu'évoquait Hassan Salamé, mais il est tout à fait encore incertain de savoir si la Chine va réussir ce que François Gipoulou appelle son basculement thalassocratique, c'est-à-dire le fait de pouvoir être une puissance globale comme le sont les États-Unis. Et ça passe effectivement par une dimension maritime, par une dimension navale. Et effectivement, le rapprochement que vous nous proposez est intéressant parce qu'en même temps, il écarte l'autre grand acteur de la Seconde Guerre mondiale d'un point de vue européen, qui est la Russie. Puisqu'il y a eu ce débat sur le fait que Vladimir Poutine n'allait pas être invité à ces commémorations, alors même que le rôle, évidemment, de l'URSS dans l'issue de la Deuxième Guerre mondiale a été décisif. Donc oui, je pense que cette visite marque une sorte de... pas de rupture, ça serait trop fort de dire ça, mais marque en tout cas une évolution qui correspond à l'émergence internationale de la Chine.
Selon l'Élysée, ce qu'on peut en savoir en tout cas, parmi les priorités côté français, dans le dialogue qui va donc commencer lundi au plus haut niveau avec la Chine, il y a l'Ukraine, Hassan Salamé, ce qui correspond aussi au souhait de Washington, qui espère en fait que Emmanuel Macron pèsera un tant soit peu pour convaincre Xi Jinping de ne pas se rapprocher davantage de Moscou. Est-ce que c'est une illusion d'optique?
Je pense que c'est quelque chose qui aujourd'hui, au-delà des moyens de la Chine, en ce sens que la Chine n'est pas devenue une puissance globale telle qu'elle puisse s'imposer comme médiateur dans l'affaire russo-ukrainienne.
Non, mais elle aide manifestement la Russie, non pas en livrant des armes, mais en livrant bien évidemment des composants qui servent à l'arsenal russe.
Il y a une coordination russo-chinoise qui est plus intime qu'elle ne l'a jamais été. Il n'y a pas de doute à cela. Cela dit, il y a dans l'idéologie chinoise, et notamment sous Xi, un souverainisme tel que l'attaque russe contre l'Ukraine embarrasse. Et c'est pourquoi, s'il y a un rapprochement idéologique et politique et diplomatique avec la Russie, de l'autre, l'idée que l'on puisse conquérir brutalement une partie d'un État voisin n'est pas nécessairement ce que les Chinois préfèrent comme relation internationale. C'est pourquoi il y a un embarras chinois. Alors qu'ils étaient plus à l'aise à ramener, par exemple, les Iraniens et les Saoudiens ensemble, les Chinois trouveront beaucoup plus de difficultés et montrent beaucoup plus de réticence à jouer un rôle souhaité par beaucoup d'Européens, d'ailleurs, dans la fin de la guerre d'Ukraine.
Thomas, Anthony Blinken était à Pékin il y a quelques jours, la semaine dernière. Il a été reçu par le président chinois qui lui a dit il serait grand temps que les États-Unis aient une vision positive du développement de la Chine. Et ce, au moment où le président chinois vient de réformer pour la énième fois, sous prétexte de lutte anti-corruption, mais pas que, l'organisation de l'armée chinoise, en faisant de l'information, du cyber, de l'espionnage, de l'influence politique, le pilier véritablement de l'armée populaire de libération. Est-ce que cette confrontation entre Washington et Pékin nous exclut, nous autres Européens, et Français bien sûr, véritablement du champ magnétique qui est à l'œuvre aujourd'hui?
Je ne pense pas que ça nous en exclut. Je pense que nous en sommes le théâtre. C'est-à-dire que ce qui se passe de mon point de vue, c'est que l'Europe, à l'instar d'autres régions, est soumise à ce champ magnétique que vous décriviez. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, dans l'attitude de la Chine vis-à-vis de la guerre d'Ukraine, bon, faut rappeler que le président Xi a attendu un peu plus d'un an pour appeler le président Zelensky. Par ailleurs, il a formulé un plan de paix en 12 points très illusoire, puisqu'au fond, comme Hansan Salamé l'a rappelé, la Chine défend le principe de la souveraineté territoriale, laquelle a été évidemment violée par la Russie, qui est soutenue politiquement par la Chine. Ce qui est important, à mon avis, avec la guerre d'Ukraine, c'est l'attitude en retrait de la Chine par rapport à l'entente militaire qui s'est formée entre la Russie, la Corée du Nord et l'Iran. Ces trois pays ayant des rapports de plus en plus asymétriques avec la Chine. Et effectivement, si la Chine ne livre pas d'armes, pour ce que l'on en sait, il faut noter que le secrétaire d'État Blinken s'est ému de voir la Chine exporter un certain nombre de puces numériques permettant au complexe militaro-industriel russe de continuer à fonctionner à plein. Ce qui est peut-être annonciateur de tensions à venir. Et ça me conduit à vous répondre sur... la question sur les transformations de l'armée populaire de libération, elles sont effectivement notables dans le sens que vous indiquiez, mais il y a une dimension, à mon avis, qui est insuffisamment prise en compte, et d'ailleurs, c'est le dernier chapitre du livre de Hassan Salamé, c'est la dimension nucléaire. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui une Chine qui produit un effort en matière nucléaire, insuffisamment analysé, avec, selon les références que l'on peut utiliser, la perspective de doubler son arsenal nucléaire à horizon 2030. Alors, ils partent de très bas, parce qu'en fait, la Chine est en train de sortir de la logique de ce qu'on appelle la stricte suffisance, assez comparable à la logique française, d'avoir un petit arsenal, mais permettant d'infliger des dommages inacceptables, à un arsenal beaucoup plus important, qui, à mon avis, reflète son ambition de puissance.
Hassan Salamé, dans l'ouvrage auquel Thomas vient de faire référence, vous démarrez en fait des années 89-91. Donc cette charnière dans l'histoire contemporaine, la chute du mur, l'écroulement de l'Union soviétique, est-ce que pour vous, cette année 2024-2025 pourrait représenter une charnière du même ordre?
Ce qui s'est passé en 89 est de dimension historique. Depuis, il y a un tiers de siècle qui s'est passé. Ce tiers de siècle, ma thèse, c'est qu'elle est divisée en deux parties, assez contradictoires. Dans une première partie, une quinzaine d'années, vous avez eu une véritable promesse d'un ordre international différent. Vous avez eu la pérennisation de l'accord sur la non-prolifération nucléaire en 95. Vous avez eu la création du tribunal criminel international. Vous avez eu une réduction massive de l'arsenal nucléaire de la Russie et des États-Unis. Vous avez eu un retrait massif des forces conventionnelles de Russie, de l'Europe et la réunification de l'Allemagne. Vous avez eu énormément de choses, et vous avez eu la première guerre du Golfe, la guerre qui a été faite suivant les normes de la sécurité collective pour laquelle l'ONU a été créée. C'est-à-dire, vous faites 12 résolutions du Conseil de sécurité et vous envoyez 39 États pour rétablir la souveraineté du Koweït sans véritablement attaquer celle de l'Irak.
En 1990.
Ça, c'est la première période. Et pendant ce temps, la mondialisation bat son plein, la démocratisation se répand à travers le monde. Autour de l'an 2000, il y avait plus d'humains qui vivaient sous un régime démocratique que sous un régime autoritaire. Et j'insiste, pour la première fois de l'histoire humaine. Donc c'était un phénomène capital. Mais à partir des années 2003, 2004, 2005, tout cela s'effrite. Et ça s'effrite au niveau du respect du droit international avec l'invasion américaine de l'Irak, contre laquelle de grandes puissances comme la France, l'Allemagne, la Russie, le pape et j'en passe, étaient hostiles. Ça s'effrite aussi parce que le mouvement de démocratisation, après une envolée extraordinaire entre 1990 et 2006 a connu un plateau avant de commencer à décliner. Et ça s'effrite aussi parce que la mondialisation heureuse des années 90 et des années zéro a été remplacée par une mondialisation plus compliquée du fait que beaucoup de pays ou beaucoup de classes sociales dans les pays les plus avancés ont commencé à voir que la mondialisation n'était pas favorable à leurs intérêts et surtout de la répétition des crises du système financier international, notamment la grosse crise de Wall Street en 2007-2008. Donc, vous avez deux périodes très différentes. Une période qui va de 90 à autour de 2005-2006 et une autre période qui va depuis. La première est faite surtout de promesses, la seconde est faite surtout de soucis. Et ces soucis vont devenir de plus en plus concrets avec l'invasion russe de la Géorgie en 2008, celle de l'Ukraine en 2014 et la plus grande invasion de l'Ukraine en 2022. Donc une espèce de dérégulation de la force que la Russie n'est pas le seul à appliquer après les Américains en Irak en 2003, mais aussi la Turquie, mais aussi l'Iran, mais aussi différents pays dans le monde. Donc on assiste à une première période qui pouvait tendre vers l'idéal de la sécurité collective, à une deuxième période qui tend beaucoup plus vers l'unilatéralisme et vers ce que j'appelle la polygamie diplomatique où l'opportunisme est roi.
Oui, mais entre ces deux périodes, on a vu, Thomas Gomard, l'apparition d'autres acteurs qui ne sont pas des États, avec l'extrémisme religieux wahhabite, la deuxième guerre du Golfe 2003, c'était la réaction peut-être inappropriée et mal ciblée, mais la réaction au 11 septembre et à Ben Laden et à l'apparition, encore une fois, d'acteurs nouveaux qui prolifèrent depuis, bien au-delà du jeu des États proprement dit. Thomas Gomard, est-ce que cela veut dire que le jeu multilatéral est désormais fracturé, ne serait-ce que par l'abondance, la multiplication des acteurs ?
Parce qu'il est fracturé, il est beaucoup plus complexe. Et si on reprend la chronologie proposée par Razan Salamé, je la compléterai peut-être de la manière suivante, c'est que sur la première période qu'il décrit comme étant la période des espoirs, au fond, faut quand même rappeler qu'on a eu aussi des drames comme le génocide du Rwanda, comme la situation dans les Balkans. Donc il y a peut-être une forme rétrospective d'idéalisation d'une situation en fait qui n'était pas forcément plus comment dirais-je, il y a eu une amélioration probablement d'un certain nombre de règles, mais en même temps cette amélioration n'a pas empêché ce que je viens d'évoquer. Pour moi, si vous voulez, la chronologie, je la reprendrai de la manière suivante, c'est que 89-91, c'est d'une certaine manière le débat entre ce que j'appelle l'esprit de Pékin ou l'esprit de Berlin. C'est-à-dire qu'on a oublié que 89 commence par la répression de Tiananmen. Et quand on parle de la Chine, on s'en rappelle maintenant peut-être davantage compte tenu de l'évolution idéologique du régime, il faudrait parler de la République populaire de Chine et de sa matrice marxiste-léniniste, qui réapparaît d'ailleurs, ce qui a été aussi le plus étudié par les universitaires ou les experts chinois, sont les conditions dans lesquelles le Parti communiste de l'URSS s'est effondré. Et ce qui, évidemment, doit être évité à tout prix par le Parti communiste chinois. Donc on a Tiananmen. On a ensuite la chute du mur de Berlin, avec cet esprit de Berlin qui va correspondre au fond à cette convergence que vous décrivez très bien dans votre livre entre l'économie de marché et la démocratie. Et puis vous avez aussi la première guerre du Golfe et enfin la chute de l'URSS. Bon. Et toute cette transformation extrêmement profonde, extrêmement rapide, se fait globalement en faveur des Européens. Des Européens occidentaux et en particulier annonce l'élargissement de 2004 dont on célèbre aujourd'hui le 20e anniversaire. Moi, la chronologie que je proposerais, c'est que pendant cette période-là, la première période que vous décrivez, au fond, les démocraties sont à l'offensive. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'à mon avis, elles sont sur la défensive. avec un autre phénomène, à mon avis, qui évolue. Je reviens à la question nucléaire parce que je pense que c'est un arrière-plan qui est insuffisamment traité. Louis Gauthier fait une remarque très juste. Il dit, en fait, en 91, c'est la déconnexion entre les stratégies militaires nucléaires et les stratégies militaires conventionnelles. Cette déconnexion, en fait, autorise d'une certaine manière les opérations extérieures, rend possible, avec le succès que l'on sait ensuite, des opérations militaires extérieures. Et nous sommes aujourd'hui, à mon sens, dans un moment de reconnexion du nucléaire et du conventionnel, puisque je citais précédemment l'entente entre la Russie, l'Iran et la Corée du Nord. Ces trois pays sont porteurs, à mon sens, de crise nucléaire. Et c'est bien effectivement ce qui embarrasse la Chine, en réalité. C'est que la manière aujourd'hui d'intéresser le reste du monde à ce qui se passe en Europe, c'est de souligner la transgression nucléaire à laquelle la Russie se livre en Ukraine.
Kersan Salamé, cette transgression nucléaire, cette juxtaposition d'une guerre conventionnelle, que Thomas Gomard parle d'une guerre coloniale, la guerre russe en Ukraine, d'une guerre coloniale sous parapluie nucléaire, mais donc on voit bien l'intrication entre la dissuasion qui demeure au niveau nucléaire et en même temps l'escalade conventionnel. Donc, est-ce que ça remet en cause?
Ça remet en cause ce qu'on a appelé le tabou nucléaire. Le tabou nucléaire, c'est l'idée qu'on n'utilise pas l'arme nucléaire et qu'on n'en parle même pas, en fait. Qu'on ne la mentionne même pas. On l'a et on le fait savoir discrètement et c'est tout. On l'utilise principalement comme une opération défensive, comme une ressource défensive, en envoyant le message à qui est plus fort que toi sur la scène internationale que nous avons les moyens de vous interdire de nous conquérir. C'est à peu près ça, le tabou nucléaire. Ce tabou est tombé. Mais ce qui arrive maintenant, contrairement à 90, c'est qu'en 90, on a vu un changement radical du système international se faire en l'espace d'à peu près 18 mois. Ce qui arrive maintenant, c'est une espèce d'effritement des règles du jeu, mais qui est plus graduel, plus progressif. Tous les quelques temps, on découvre un nouveau facteur. Et le nucléaire est ce facteur. Qu'est-ce qu'on voit au niveau nucléaire? On voit d'abord une grande puissance nucléaire qui mentionne, qui même menace, pas dans la bouche de Poutine peut-être, mais celle de Medvedev certainement, et d'autres acteurs russes, d'utiliser éventuellement une arme nucléaire tactique en Ukraine. On voit aussi que la Corée du Nord développe son programme nucléaire et balistique, sans pratiquement, en sortant du TNP, du traité de non-prolifération, et en faisant à sa guise sans être... On voit la Corée du Sud qui devient un acteur très intéressant du système international, et Monsieur Gomard a raison de le mentionner dans son livre, la Corée du Sud qui devient d'abord un gros exportateur d'armes, notamment vers la Pologne récemment, mais aussi une puissance qui peut devenir nucléaire peut-être même plus rapidement que le Japon voisin.
Et le Japon lui-même qui se réarme massivement, oui, et réfléchit
et songe à une possibilité.
À haute voix.
Oui, oui, mais à haute voix. Donc le tabou est en train de s'effriter. Mais il y a aussi autre chose. Il y a le fait qu'on a un ministre israélien qui n'hésite pas à dire qu'il peut envoyer ou larguer une bombe atomique sur Gaza. On voit l'Iran qui continue son enrichissement d'uranium à plus de 60%, ce qui ne peut pas être très utile à une industrie nucléaire civile et qui indique d'autres intentions. Et on voit même des pays qui ont pu être nucléaires et ont... se sont engagés à ne pas le devenir, comme le Brésil, qui commence à se dire « Est-ce que j'ai bien fait d'accéder au TNP ?» Donc, il y a, nous vivons, une espèce d'effritement du tabou nucléaire et de l'universalité du traité de non-prolifération. C'est pourquoi, effectivement, j'ai consacré plusieurs dizaines de pages à ce phénomène, parce qu'il me paraît un phénomène capital, une espèce de reconnexion, de recombinaison de la menace conventionnelle avec la menace nucléaire.
Thomas Gomard, dans votre dernier livre sur l'accélération de l'histoire, vous décrivez de façon très convaincante ce que vous appelez les effets de bord, c'est-à-dire le déplacement des nœuds géostratégiques. Donc l'Ukraine nous emmène en mer Noire, Gaza nous emmène dans le golfe arabo-persique, et bien évidemment l'élection présidentielle américaine pose à terme toutes sortes de questions qui nous concernent, nous autres en Europe, mais qui concernent au premier chef Taïwan et ce qui se passe ces jours-ci en mer de Chine du Sud, avec les accrochages entre les Philippines et la Chine et la puissance maritime que développe la Chine. Donc, ce déplacement des théâtres et cette accélération, est-ce qu'elle amène au durcissement, encore une fois, entre deux acteurs principaux? Et on en revient, en fait, à votre discussion du début, c'est-à-dire il y a les États-Unis et la Chine. Et les États-Unis qui restent la grande puissance mondiale plus que la Chine aujourd'hui.
Alors, je resterai sur le premier point, c'est-à-dire qu'effectivement, de mon point de vue, la rivalité sino-américaine est une rivalité très complexe parce qu'elle est assise sur une interpénétration économique jamais atteinte. Et ça, c'est la grande différence entre la guerre froide dans sa confrontation soviéto-américaine et la situation actuelle. Elle se polarise principalement en mer de Chine, mais ses effets se font ressentir ailleurs, en Europe ou au Moyen-Orient, mais de manière beaucoup plus estompée, dirais-je. En revanche, cette situation aboutit à ce qu'on appelle l'émergence de puissances moyennes qui sont en fait de moins en moins tenues par leur système d'alliance et qui considèrent qu'elles peuvent jouer par elles-mêmes un jeu stratégique. Et c'est très visible de la part des pays du Golfe. Ensuite, l'aspect, si vous voulez, les effets de bord, on en a dit un mot. Déjà, le fait que la Russie, l'Iran et la Corée du Nord soit dans une entente militaire, d'une part, dans une sorte aussi de syndicat anti-occidental, en fait, montre bien déjà la connexion entre ces trois grands théâtres que sont, à mon sens, effectivement, la mer Noire et la Méditerranée, le golfe Persique et le détroit de Bab el-Mandeb, et puis la mer de Chine. Il y a une zone de contact évidente entre ce qui se passe en Ukraine et ce qui se passe au Moyen-Orient, qui est le Caucase, qui est aussi travaillé aujourd'hui par des tensions très fortes auxquelles on prête assez peu d'attention. On a un conflit ouvert entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. On a évidemment l'Azerbaïdjan qui est soutenu par la Turquie, qui est soutenu par Israël. On a l'Iran qui est présent dans cette zone. On voit d'ailleurs en Arménie, outre l'implication de pays comme la France, mais l'implication de pays comme l'Inde désormais, et une situation qui n'est absolument...
L'Inde en Arménie, pardon, oui, je vous interromps.
Oui, l'Inde en Arménie. Oui, vous avez une présence indienne qui se confirme en Arménie parce qu'en fait, la lecture qui est faite, c'est que l'Azerbaïdjan avec la Turquie est soutenu par le Pakistan et que donc c'est aussi une manière d'avoir un effet de bord. Et puis ensuite, il y a la mer de Chine. Alors la mer de Chine, c'est très particulier. Pourquoi ? Parce que il se trouve que j'ai eu l'occasion de naviguer en mer de Chine en juillet 2023 et on se demandait souvent où est la marine chinoise, où est l'effort produit par la Chine pour se doter d'une marine de haute mer, une marine de guerre. Eh bien, elle est en mer de Chine. Et elle quadrille la mer de Chine, c'est-à-dire que l'ambition territoriale, au fond, de la Chine, effectivement, le terme d'absorption me semble très bien choisi par Hassan Salamé, consiste à vouloir transformer la mer de Chine en lac chinois. Et de ce point de vue-là, le détroit de Taïwan, indépendamment de la question de la réunification, entre guillemets, voulue par la République populaire de Chine par rapport à Taïwan, pose la question fondamentale du transit du commerce international par le détroit de Taïwan d'une part, et d'autre part, la particularité de cette région du monde, c'est qu'elle est centrale dans la production des puces numériques, puisque vous avez 80% des puces numériques mondiales qui sont produites à Taïwan, au Japon et en Corée du Sud, et 50% de cet ensemble est produite à Taïwan. Donc ça donne en fait une dimension à la fois géopolitique au sens territorial du terme et géoéconomique tout à fait décisive pour ce qui se passe en mer de Chine.
Hassan Salamé, on voit que dans cette partie-là du monde, les États-Unis mènent une diplomatie bilatérale très active en tissant un réseau d'alliances militaires plus encore que commerciales. Il y a l'AUKUS, évidemment, et on se souvient des vexations françaises au moment de l'annulation du contrat de livraison de sous-marins à l'Australie. Est-ce que ce sont de nouveaux axes dans la cartographie géopolitique du monde que nous autres Européens négligeons de façon excessive.
Vous ne négligez pas intellectuellement. Moi, je pense qu'il y a une conscience très nette du déplacement des nœuds géostratégiques de Gibraltar au détroit de Taïwan, par exemple. Et je crois que intellectuellement, les Européens sont à la page. Le problème, c'est d'en avoir les moyens. Ça, c'est autre chose. Les États-Unis ont une douzaine de groupes autour de leur porte-avions qu'ils peuvent déplacer. Au début de la guerre de Gaza, ils en ont déplacé deux en l'espace de quelques jours, pratiquement, vers la Méditerranée orientale. Ce n'est pas le cas des pays européens aujourd'hui qui ont des moyens beaucoup plus modestes et qui ont qui ont laissé passer le temps pour ouvrir les yeux sur la réalité internationale telle qu'elle est en train de devenir. Le principal atout des Américains, me semble-t-il, en Asie orientale, est le fait que pour devenir une puissance globale, vous avez intérêt à avoir un environnement régional apaisé, qui ne vous est pas hostile. Les deux voisins de l'Amérique, c'est le Canada et le Mexique. Et ils ne sont plus en guerre, au moins depuis le début du 20e siècle avec le Mexique, et depuis le début du 19e avec le Canada.
Mais l'autre voisin, c'est la Chine, quand vous êtes en Californie.
Oui, mais il y a quand même un océan. Alors que ce qui concerne la Chine, elle a 8 voisins, et elle a des problèmes pratiquement avec les 8 voisins, y compris très récemment avec les Philippines, mais aussi avec le Vietnam, mais aussi avec l'Inde, sur plusieurs points de la frontière. Donc, quand vous avez l'aspiration ou la vocation d'une grande puissance, vous ne pouvez pas être retenu dans cette ambition par des problèmes, j'allais dire, chez soi, dans son environnement régional immédiat. Et c'est l'un des principaux problèmes de la Chine sur lesquels les Américains essayent de jouer. Donc ils montent en puissance l'Inde, qui a diversifié assez rapidement, je dois avouer, ses sources d'armement. Elle comptait encore sur la Russie pour 70% de son armement il y a à peine une dizaine d'années. Maintenant, elle s'ouvre à la France, elle s'ouvre aux États-Unis, elle s'ouvre à différents... Et par la création de nouvelles alliances sur place et par la combinaison de l'océan Indien avec l'océan Pacifique. Ça, c'est la grande nouveauté conceptuelle d'aujourd'hui. C'est que c'était deux océans relativement différents. Mais on voit aujourd'hui les marines chinoises et indiennes en compétition tout près de la Somalie, tout près du Bab el-Mandeb. On les voit aussi dans le Pacifique. Donc, il y a une espèce de confusion des deux océans en termes stratégiques pour donner un espace maritime plus large à l'Inde en vue de l'avoir joué un rôle de contrepoids à cette marine chinoise qui s'est développée extrêmement vite jusqu'à dépasser en nombre, mais pas en qualité, le nombre des bâtiments américains.
Thomas Gomard, l'importance géostratégique de cet espace maritime, on le voit aussi dans l'analyse que livre Ghassan Salamé dans son livre de ce qu'on appelle désormais le Sud global, avec, et vous le dites Ghassan, toutes les fractures et les divisions qui les caractérisent. C'est pas un bloc, mais ce sont des axes transactionnels en quelque sorte. Mais on voit aussi que l'élargissement des BRICS lors du dernier sommet en Afrique du Sud, à l'Arabie Saoudite, aux Émirats, à l'Iran, à l'Éthiopie, à l'Égypte, tout cela permet à la Chine, qui en fait partie, d'être désormais présent dans le Golfe, en mer Rouge, en Méditerranée orientale. Est-ce que, Thomas, dans les trois livres que vous avez publiés à une cadence rapide chez Talendier ces deux dernières années, vous insistez toujours sur l'importance de ce théâtre maritime. Est-ce que là, on voit de nouveaux axes qui se dessinent sur mer, en quelque sorte?
Ce qui est certain, c'est que les stratèges chinois ont lu l'amiral Mahan. Et donc j'en reviens à cette idée de puissance maritime et de puissance navale. C'est que la mondialisation telle qu'elle a été vécue par la Chine est une maritimisation. Et le paradoxe d'ailleurs, c'est qu'elle a beaucoup bénéficié à la Chine sur le plan économique, et que si la Chine était amenée à bloquer ou à
faire de la mer de Chine une sorte de verrou, elle sera en contradiction avec le modèle de développement qui a été le sien depuis les réformes de Deng Xiaoping. Alors ensuite, ça renvoie une longue histoire que j'ai pas le temps d'évoquer, mais ce qui est certain sur un plan d'anticipation stratégique, et c'est des choses qui apparaissent déjà dans des auditions devant les commissions parlementaires, c'est de savoir si la Chine va être capable d'avoir des bases au fond permanentes en Méditerranée. Elle a déjà une base à Djibouti. Est-ce que l'ambition, c'est d'être présent en Méditerranée? La réponse pour l'instant, c'est plutôt par l'acquisition de ports, civils, avec peut-être des éléments de dualité. Et ce qui serait une forme de mimétisme par rapport à l'attitude des États-Unis, mais dans une disproportion encore très forte. C'est-à-dire que la grande caractéristique de l'être au monde des États-Unis, c'est précisément leur système de base partout dans le monde, à la fois militaire et dual. Et puis l'autre grande question, c'est à partir de quand la Chine pourrait être présente dans l'Atlantique, c'est-à-dire est-ce qu'on va se retrouver un jour avec des bateaux chinois au large de Brest, de la même manière que la Chine considère qu'il y a un peu trop de bateaux européens ou américains qui empruntent le détroit de Taïwan. C'est ce genre de questions qui se posent désormais. Si vous le permettez, Christine O'Krent, je voudrais peut-être réagir à la formule de Hassan Salamé sur intellectuellement, les Européens sont à la page sur l'évolution de ces rapports de force. Et en fait, je n'en suis pas certain, pour tout dire. Parce que je pense que le sujet sur lequel on réfléchit, c'est la manière dont des territoires attirent des flux, quels qu'ils soient, ou au contraire repoussent ces flux. Et ce qui est très nouveau pour, à mon avis, les Européens, ils sont, à mon sens, déphasés par deux choses. Déphasés parce qu'ils ont des armées depuis le début des années 70, et ils se retrouvent aujourd'hui dans une situation, en dépit de l'effort que représente leur budget militaire, de désarmement structurel qu'ils ne peuvent pas rattraper dans la période de crise. Ça, c'est le premier élément de déphasage. Et puis le deuxième, c'est qu'ils ont cru qu'au fond, l'ensemble du monde allait suivre les règles qui étaient les leurs. Et aujourd'hui, c'est le constat d'ailleurs fait par le président de la République dans son second discours à la Sorbonne, c'est le fait que le constat que ni la Chine ni les États-Unis ne suivent désormais les règles du commerce international.
La et double ça, naïveté.
Voilà, et ça c'est très déstabilisant pour les Européens, et c'est ce qui me conduit à dire que je pense qu'intellectuellement, ils ont probablement besoin de réinjecter très vite les rapports stratégiques dans leurs réflexions.
Oui, il est vrai que la fin de l'histoire est un mythe qui a perduré longtemps à Bruxelles. Et alors qu'il était mort un peu partout dans le monde, et que son propre auteur l'avait déjà répudié. Mais à Bruxelles, il continuait à fonctionner comme si les normes produites à Bruxelles ou à Strasbourg étaient universelles automatiquement. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais il est vrai qu'il y a des enjeux aujourd'hui dans le monde dont l'Europe est absente, parce qu'elle n'a pas les moyens. Regardez par exemple un point peut-être auquel vous n'avez pas concentré assez votre attention, c'est cette volonté de la Chine d'établir un lien direct avec l'océan Indien à travers la province de Rakhine de Birmanie. J'y ai passé un an en 2017 et je voyais les Chinois en train de monter un pipeline, en train de monter une autoroute, un chemin de fer, en vue précisément de contourner tout le trajet maritime que leurs exportations doivent faire par Malacca, par des endroits qu'ils ne maîtrisent pas tout à fait. Si jamais ils arrivent à avoir un accès si rapide de la province du Yunnan directement vers l'océan Indien, ça changerait entièrement la donne. Or, vers où vont ces exportations? La destination de ces exportations, si jamais le grand projet d'un point chinois important dans la province birmane de Sitwe devait voir le jour, c'est le Golfe, bien entendu, mais aussi l'Europe.
Et l'Afrique.
Donc, il gagnerait en réalité plusieurs semaines pour chaque bateau en construisant cela. Or, cette dynamique-là, l'Europe en est absente. Et quand j'en parle même en Europe, j'étonne ou je surprends un peu mes interlocuteurs.
Néanmoins, Hassan, pardon, je vous interromps, mais le discours du président Macron, donc le 25 avril dernier à la Sorbonne, un très très long discours, mais avec un diagnostic terrible, mais hélas réaliste, l'Europe peut mourir, et donc il faut construire une Europe puissance et se défaire de cette double naïveté, naïveté vis-à-vis de la Chine. On le voit sur le plan commercial et on voit d'ailleurs les différences d'intérêt entre la France et l'Allemagne sur ce sujet particulier, mais aussi naïveté vis-à-vis des États-Unis. Parce que certes, nous sommes sous protection militaire américaine de fait, même si la France est une puissance nucléaire, mais les États-Unis sont protectionnistes et les règles du jeu sont bouleversées. Donc, est-ce que pour vous, vous avez, depuis le Mont Liban, vous avez arpenté le monde, mais vous vivez en France depuis longtemps aussi, c'est votre port d'attache en quelque sorte. Est-ce que l'Europe peut récupérer, reconstruire, imaginer des outils qui lui permettent de rester dans le jeu? Ou est-ce que vous considérez qu'elle est marginalisée?
Non, je ne suis pas de cet avis-là. Je pense qu'effectivement, tel un cycliste, l'Europe ne peut avancer que d'une manière dynamique. L'Europe ne peut pas exister d'une manière statique. Donc, elle doit être dynamique pour continuer d'exister. Elle ne peut pas dormir sur ses lauriers. Le problème, c'est la définition du sens de la route. Est-ce qu'il faut aller vers la production de plus de normes? Je ne le pense pas. Je pense que c'est une période passée. Est-ce qu'il faut aller vers une ouverture dangereuse à des pays qui ne peuvent pas respecter les standards de l'UE telle qu'elle est? Je pense que c'est un peu risqué. Est-ce qu'il faut aller dans le sens d'une conscience de l'aggravation des défis stratégiques? Certainement. Et je crois, c'est ce que je retiens du discours du président de la République. J'en retiens principalement un appel à se réveiller. Un appel à se réveiller sur l'aggravation des dangers stratégiques et sur le fait qu'on peut effectivement déceler dans la relation atlantique deux dimensions entièrement contradictoires. Une espèce d'acceptation de la primauté américaine en matière stratégique et un refus du nationalisme américain en matière économique. Le projet européen a été un projet qui voulait aller au-delà du nationalisme. Mais les Américains n'ont pas suivi. Les Américains sont aujourd'hui plus nationalistes que jamais. Et si jamais M. Trump était élu dans quelques mois, vous allez avoir des États-Unis qui sont plus transactionnels que jamais. C'est-à-dire qui ne croient pas à la solidité des alliances, qui sont très, belliqueux quand il s'agit de défendre leurs intérêts nationaux, notamment économiques, et qui ne sont pas particulièrement attentionnés à l'endroit de leurs alliés classiques. C'est pourquoi il y a, dans la relecture nécessaire de la relation euro-atlantique, quelque chose d'essentiel. Il faut comprendre les Américains, il faut comprendre aussi la démographie américaine. L'Amérique d'aujourd'hui est démographiquement très différente des États-Unis d'il y a 50 ans. Les WASP seront sans doute moins de 50% dans la population américaine d'ici une dizaine ou une quinzaine d'années. Vous avez une population nouvelle où les Latinos sont très nombreux et ils regarderont principalement vers l'autre partie du continent américain. Et vous avez des Asiatiques en grand nombre qui regarderont beaucoup plus vers l'océan Pacifique que vers l'océan Atlantique. Autant l'Amérique était une fille de l'Europe pendant le XXe siècle, autant pendant le XXIe siècle, je la vois démographiquement devenir beaucoup plus tournée vers le sud, c'est-à-dire vers l'Amérique latine, et vers l'est, ou l'ouest, comme vous voulez, vers l'océan Pacifique plutôt que vers l'Atlantique.
Thomas Gomard, cela veut dire aussi, consolider l'Europe, et j'en reviens non seulement au discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne, mais à son dernier entretien avec la presse régionale française sur la nécessité de construire un bouclier commun européen en termes de défense, avec donc le dispositif nucléaire français qui serait mis à disposition. Je sais qu'il faut faire très très attention aux mots que l'on emploie sur ce sujet, plus encore que sur d'autres. Mais bon, on ne peut pas dire que il y ait eu des applaudissements frénétiques dans d'autres capitales européennes, et comme souvent, hélas, à Berlin. Il y a eu un petit communiqué quand même du chancelier Scholz pour dire, bah oui, c'est toutes sortes de bonnes idées, mais sérieusement, est-ce qu'on peut espérer que la panoplie proposée par Emmanuel Macron pour renforcer l'Europe ait quelque écho au sein même des 27 ?
Je pense que l'objectif du second discours de la Sorbonne était d'insister sur la gravité du moment. Et du moment de bascule, et que c'est un discours qui est de plus en plus partagé en Europe, compte tenu de l'évolution de la situation en Ukraine et de la perspective d'une éventuelle réélection de Donald Trump. Au fond, son discours articulait les enjeux de puissance, les enjeux de prospérité, puis les enjeux, ce qu'il appelait, d'humanisme. Alors, sur l'aspect de la puissance, il y a effectivement la dimension nucléaire sur laquelle on pourra revenir, mais moi je voudrais insister sur l'aspect de prospérité, parce que je pense que la grande difficulté, au fond, aujourd'hui des Européens, dans leur rapport à la fois avec les États-Unis et avec la Chine, c'est l'état de leur appareil productif. Et notamment la situation dans laquelle ils se trouvent sur le plan technologique. Autrement dit, on pourrait en fait faire la même chronologie que celle que proposée par Ghassan Salamé précédemment, en disant cette chronologie, on peut aussi la voir en termes technologiques. C'est-à-dire qu'à mon avis, ce à quoi les Européens doivent se préparer et ce pourquoi ils doivent accélérer, c'est l'adaptation de leur appareil productif aux nouvelles conditions de la productivité. Et en particulier à la technologie. Pourquoi je reprends votre chronologie, c'est que le début des années 2000, c'est effectivement le 11 septembre, mais c'est aussi l'apparition des réseaux sociaux et de ce capitalisme de plateforme qui va être très dominé par les plateformes numériques américaines, ce qui me permet aussi de vous répondre, Christine O'Krent, sur votre question sur les nouveaux acteurs, en fait, sur la scène internationale. Ce sont devenus des acteurs tout à fait essentiels, avec leur pendant chinois, que l'on connaît beaucoup moins, et qui, évidemment, brassent des masses considérables de données qui sont en train de modifier à la fois nos comportements politiques et nos comportements de consommation. Et aujourd'hui, on est, à mon avis, également dans une rupture technologique avec l'apparition de l'intelligence artificielle qui modifie là aussi nos comportements et qui est en train d'accentuer le décrochage entre les États-Unis et l'Europe. Et donc cette dimension a conduit le président de la République à insister sur ce qu'il appelle l'humanisme numérique, c'est-à-dire au fond, est-ce que l'Europe n'a pas un discours particulier à produire sur cet espace numérique dans lequel nous passons de plus en plus de temps et qui l'a présenté de mémoire comme une jungle en fait, en disant on laisse pas des enfants rentrer seuls dans une jungle et donc il faut apprendre à naviguer ou à progresser plutôt dans cette jungle. Et là, je pense qu'il y a une dimension politique tout à fait intéressante pour les Européens, à condition qu'ils soient capables de maintenir leur appareil productif à niveau.
La métaphore de la jungle est tout à fait à sa place, je crois. Monsieur Macron a choisi une métaphore qui rend bien ce que nous vivons en tant que père et grand-père avec nos petits-enfants et l'écran. Mais il y a aussi autre chose, je pense. Et cette autre chose, c'est la bonne vieille industrie. Je reviens, par exemple, à la production des munitions qui manque si atrocement à certains des alliés de l'Occident aujourd'hui dans le monde. En 1939, les États-Unis étaient le 13e producteur mondial d'armement. 13e. En 1945, 5 ans plus tard, c'était le premier. C'est-à-dire il y a une capacité de la base industrielle pour un rebond rapide et volontariste. Je crois que la désindustrialisation de l'Europe est aussi un problème qu'il faut garder à l'esprit.
D'autant qu'on achète américain quand il faut trouver des munitions
rapides. Et ça, c'est l'autre problème, aussi d'ailleurs adressé par Monsieur Macron dans son discours. Là, je pense qu'il y a quelque chose à faire au niveau de la concertation avant la proposition. Je pense que la diplomatie française doit être plus active dans la concertation préalable à la proposition de nouvelles idées.
Française ou européenne ?
Il ne faut pas que le reste de l'Europe soit surpris par de nouvelles propositions françaises. Même si l'effet de surprise est perdu, la concertation est beaucoup plus rentable sur le long terme que l'effet de surprise.
Mais ça nous amène, Ghassan Salamé, à nous interroger à la fin de cette discussion sur les outils dont disposent désormais les États, mais aussi les autres acteurs non étatiques du jeu diplomatique. Vous avez consacré de nombreuses années de votre vie à l'Organisation des Nations Unies, conseiller spécial de Kofi Annan, de Ban Ki-moon, votre dernier poste, si j'ose dire, même si vous étiez basé, je crois, à Tunis.
Non, j'étais à Tripoli.
À Tripoli, donc représentant spécial pour la Libye, et l'on voit évidemment l'étiolement, en tout cas, non pas de l'Organisation des Nations Unies dans son ensemble, parce que les agences restent très utiles dans certains secteurs, mais néanmoins, ça ne sert plus à rien.
Vous avez raison de faire la différence entre les agences et le reste. En fait, l'ONU est un immense archipel, fait du Conseil de sécurité, de l'Assemblée générale, mais aussi de beaucoup d'institutions associées, également des agences. Et aujourd'hui, si vous mettez fin au programme alimentaire mondial, ou si vous mettez fin au HCR, ou si vous mettez fin à l'OIM, il y a des dizaines, voire des centaines de millions de personnes dans le monde qui vivraient dans une souffrance beaucoup plus grande que celle qu'ils reconnaissent aujourd'hui. Il y a 130 millions de réfugiés dans le monde que le HCR gère. Il y a encore plus de gens qui sont au-dessous du seuil de pauvreté que notamment le programme alimentaire mondial. L'archipel est fait d'îles, j'allais dire florissantes, c'est-à-dire actives et qui performatives, etc. Et il est fait aussi d'institutions qui dépendent de la bonne volonté des grandes puissances. Il faut que les grandes puissances aient un minimum de terrain commun, un minimum de confiance mutuelle pour que le Conseil de sécurité fonctionne. Sinon, le Conseil de sécurité redevient paralytique. Il n'est pas aussi paralysé qu'il était pendant la guerre froide, mais il a perdu énormément de son agilité qu'on avait vu, par exemple, au moment de la guerre du Koweït en 1990. Il s'est affaibli, il s'est dirigé vers des questions secondaires parce qu'il sait qu'il n'y a pas de consensus sur les questions fondamentales. Et avec le droit de veto, il s'est interdit d'avoir une position sur la Syrie parce qu'il y avait le veto russe. Il s'est interdit de s'occuper du conflit israélo-palestinien parce qu'il y a le veto américain. Il s'est interdit de nouveau de s'occuper de l'affaire d'Ukraine parce qu'il y a un veto potentiel russe. Donc, avec le droit de veto, on se paralyse mutuellement. Maintenant, il y a un peu de regain d'influence de l'Assemblée générale, qui n'est pas mauvais. Il y a eu le fameux amendement de Liechtenstein qui a permis...
Ah oui, alors c'est quoi ça, l'amendement de Liechtenstein? Parce que ça, c'est quand même...
Alors l'ambassadeur...
Non pas qu'il y ait beaucoup d'humour à l'Assemblée générale des Nations Unies, mais on se demande ce que c'est.
Alors le représentant de Liechtenstein aux Nations Unies, qui est là depuis très longtemps, a eu une idée, celle d'amener ceux qui ont le droit de veto. C'est une idée d'ailleurs qui avait été caressée par Laurent Fabius quand il était ministre des Affaires étrangères. C'est l'idée que ceux qui utilisent le droit de veto doivent aller ensuite devant l'Assemblée générale s'expliquer sur cet usage. Mais jusqu'ici, il n'y a que cette obligation. Peut-être on peut aller un peu plus loin, comme la France l'a proposé plus d'une fois.
Est-ce qu'on imagine le représentant russe aller...
Il est maintenant obligé de le faire. Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'on peut aller un peu plus loin et non pas seulement lui demander de s'expliquer, mais ouvrir un vrai débat et pourquoi pas éventuellement un vote de l'Assemblée générale. Peut-être que c'est une manière de réanimer, une petite brèche. Mais il faut bousculer la paralysie du Conseil de sécurité, non pas tellement en ajoutant de nouveaux acteurs, en passant de 15 à 25, ou de membres permanents, de passer de 5 à 10 ou 20, ce qui rendra la productivité de cet organe encore plus compliquée. Mais peut-être, au niveau des compétences, on l'a chargé de la paix et de la sécurité internationale. Il est très actif sur le changement climatique. Il est très actif sur la parité homme-femme. Il est très actif sur l'exploitation du travail des enfants. Mais il n'est pas très productif en ce moment sur la paix et la sécurité.
Sur la paix et la sécurité, Thomas Gomard, est-ce que cela veut dire qu'on voit apparaître des outils plus fragmentés, en quelque sorte, moins ambitieux, plus régionaux, et qui complète ou qui désorganise davantage l'ordre ou le désordre?
Je crois encore une fois que ça le complexifie. Moi, j'aime bien la formule d'archipel onusien parce que, indépendamment de la question du Conseil de sécurité et de son blocage, il y a toutes ces agences. Mais même au-delà de ces agences, il y a la dynamique produite par ce système onusien qui associe de plus en plus des représentants des grandes entreprises, des représentants des sociétés civiles, dans une sorte de maillage, de gouvernance effectivement difficile à déchiffrer, mais qui produit des effets. Je pense par exemple aux objectifs de développement durable qui doivent servir en principe de modèle à l'élaboration d'un certain nombre de politiques publiques ou aussi de business model pour des grands groupes. Donc ça montre quand même une logique coopérative qui reste extrêmement forte. Alors comment expliquer ce décalage entre ce Conseil de sécurité qui n'arrive pas au fond à changer les choses, que ce soit en Syrie, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Palestine, et la situation que je viens de décrire? Je crois que vous, dans votre livre, vous avez une hypothèse, à mon avis, intéressante, qui est cette scission à venir entre la sécurité et l'économie. C'est-à-dire une vision du système international qui va aller vers toujours plus d'interdépendance. Peut-être ces interdépendances font-elles se régionaliser davantage, mais des enjeux de sécurité, et en particulier de sécurité interétatique, et c'est peut-être là qu'il y a effectivement une ruse de l'histoire par rapport à tout l'enseignement des relations internationales qu'on a pu avoir ces dernières années, qui redevient tout à fait décisif, peut-être tout simplement parce que le capitalisme se love dans les rapports de puissance.
Ben oui, cette scission est fondée sur ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que les échanges commerciaux entre la Russie et les États-Unis pendant la guerre froide étaient $1 milliard par an. Aujourd'hui, les échanges entre la Chine et les États-Unis, les échanges commerciaux, sont de $2 milliards par jour. Donc, nous assistons à une scission totale, à un moment où la rivalité sino-américaine devient de plus en plus tendue. Les échanges commerciaux battent leur plein. L'année dernière, 2023, ils dépassaient 600 milliards. Donc, nous avons une scission qui se produit devant nos yeux. Est-ce que ça va durer? Peut-être que vous avez envoyé une idée dans votre livre qui est intéressante, qui est l'idée que nous n'assistons pas, contrairement à ce qu'on lit toujours dans la presse, à un découplage sino-américain, mais on assiste en réalité à une sélectivité américaine de ceux sur quoi ils ne veulent pas que les Chinois les suivent ou les précèdent. Donc c'est beaucoup plus sélectif, alors que le gros des marchandises continue de s'échanger mutuellement, on va sélectionner quelques terrains particuliers où on veut pas que la technologie soit diffusée d'une manière libre.
En guise de conclusion très provisoire et en quelques mots, la même question à chacun d'entre vous. Quelle serait pour vous, Thomas, la meilleure nouvelle sur le plan géopolitique dans les mois qui viennent? Le meilleur développement?
Je crois que ça serait une trêve en Palestine et une sortie de crise en Ukraine. Est-ce que c'est possible d'avoir les deux simultanément? Je ne le pense pas à horizon 2024. Sur la fin 2024, peut-être que l'année 2025 rendra les choses un peu plus possibles, je l'espère en tout cas.
Hassan Salamé, très brièvement.
De cesser d'attendre le résultat de l'élection américaine et de commencer à établir un cessez-le-feu à Gaza et effectivement un début de solution en Ukraine. Mais malheureusement, beaucoup trop d'acteurs attendent pour cela de voir qui va être élu en novembre.
Eh bien, je vous remercie infiniment, tous les deux. Thomas Gomard, je rappelle votre tout dernier ouvrage, L'accélération de l'histoire, les nœuds géostratégiques d'un monde hors de contrôle, c'est allendais, c'est sorti cette année. Je rappelle les livres précédents, parce que, à mon avis, tout ça se complète fort intelligemment. Les ambitions inavouées, c'était aussi chez Talendier, et nos prochains défis géopolitiques. Hassan Salamé, vous venez de publier chez Fayard La tentation de Mars, guerre et paix au XXIe siècle, et vous avez publié, toujours chez Fayard, d'autres ouvrages, Appel d'Empire, ça c'était en 96, et Quand l'Amérique refait le monde, en 2005. À la réalisation ce matin, Luc-Jean Reynaud, Ludovic Auger était à la technique, Mercia Nezic et la documentation de Radio France m'ont aidé à préparer cette émission, et nous sommes samedi, voici donc Nora Amadi, Sous les radars, très bon week-end, et à samedi prochain.